Donc le père Prost qui réside à Ars, qui parle un français parfait, mais dont on entend quand même quelques accents venant d'outre-Manche. Donc le père Prost est anglais et on l'a dit, le père Bernard l'a dit, il enseigne ici donc depuis une vingtaine d'années au Studium. Donc certains d'entre vous l'ont peut-être déjà eu, notamment sur la question interreligieuse, œcuménisme.
Et
d'autres sujets, mais puisque le père s'est en particulier occupé de ça pendant des années au Bossé, une aventure qu'il vous racontera en d'autres temps. Voilà.
Merci beaucoup, père. Et ses yeux petits, vous savez, et ça me rappelle Thérèse Lisieux. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour la rectification de Newman et nous te demandons de nous aider à bien entrer dans ce que nous travaillons maintenant pour mieux comprendre la foi de l'Église, mais aussi la foi de nos frères séparés. Ainsi soit-il.
Amen.
Ce que je vous ai demandé de prendre, ce que vous en devez prendre d'abord, ce sont mes feuilles qui concernent le contexte religieux dans lequel Newman a évolué, au moins jusqu'à sa conversion au catholicisme. Et là, pour laquelle je commence comme ça, c'est parce que c'est difficile à comprendre la complexité de ce qu'il nous dit si nous ne voyons pas un petit peu le contexte dans lequel il a évolué en Angleterre. Et ce que j'ai pris comme texte que vous avez là, c'est le texte avec une bordure noire, hein, c'est justement un texte qu'il a écrit pour des lecteurs français à la fin de son apologie, qui est justement l'étude par lui-même ou l'exposé par lui-même de son itinéraire spirituel et intellectuel lorsqu'il a été attaqué sauvagement en protestant d'avoir été fourbe, d'avoir trahi enfin ses convictions, etc., en se convertissant au catholicisme. Alors, il faut absolument que vous lisiez tout, mais moi je vais mettre au tableau des points que je vais commenter et vous allez suivre sur les pages ces points, comme ça vous aidera en fait la lecture seule d'une manière plus éclairée, parce que toutes ces réalités de l'histoire religieuse de l'Angleterre, vous les connaissez ou les connaissez pas, mais c'est assez complexe. Alors je vais mettre les points que je vais développer sur le tableau, et puis ça renvoie à des sections de cette exposé de Newman. Et alors il y a d'abord premier point qui développe, c'est l'établissement. L'Église a établi quoi? L'établissement anglican comme fruit d'une histoire complexe. Et c'est les premiers paragraphes que vous avez devant vous qui parlent de ça. Ensuite, j'ai précisé un deuxième point. Les trois parties, et là je crois que nous allons lire ça en entier parce que c'est si important. Les trois parties existait dans l'anglicanisme à cette époque, c'est-à-dire lorsqu'il a vécu là, dans l'anglicanisme. Troisièmement, ah oui, alors les nuances complexes, parce que souvent les Français parlent de High Church et de Low Church comme si c'était des termes qu'on pouvait qu'on pourrait employer maintenant. Alors qu'en fait, Newman... Oh non, mais j'ai laissé. Troisième point, la véritable source de l'unité anglicane. Au moins pour ce qui est de l'Église d'Angleterre. Ensuite, alors c'est une nuance complexe. Les trois termes High Church, Église haute si vous voulez, Low Church, Basse Église, Low Church. Et puis, Broad Church, l'église large. Qu'on a tendance à employer aujourd'hui, alors qu'en fait, c'était applicable à la situation dans le mécanisme depuis que Newman, justement, a bouleversé un petit peu toutes les choses. Et puis alors, la situation. Des Anglicans fervents. Alors, je vais commenter ces cinq points, et pour une part, on va même lire certains passages de Newman. Mais pour ce qui est du premier point, la complexité de l'Angleterre religieuse au début de la réforme et par la suite, eh bien, je vais aller assez rapidement là-dessus. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Angleterre, ce n'est pas l'installation dans tout un territoire d'une forme classique ou dogmatiquement reconnaissable du protestantisme. Il y a eu en Europe une fixation de deux types, si vous voulez, de protestantisme dogmatique dans le pays, dans les différents pays de l'Europe qui sont passés au protestantisme. C'est ou le protestantisme sous sa forme luthérienne, ou le protestantisme sous sa forme calviniste. Et alors, en France, la Fédération des Églises protestantes de France était justement une fédération des églises luthériennes qui était plutôt sur la frontière avec l'Allemagne dans les deux départements d'ailleurs qui sont restés concordataires. Et puis ensuite, alors, à l'intérieur du pays, c'était davantage à Paris ou ailleurs, c'était davantage le calvinisme. Et ensuite, il y a fixation dogmatique du protestantisme classique comme ça en Europe, alors que ce qui s'est passé en Angleterre, c'est que l'État a géré toutes les formes et tendances protestantes qui circulaient, même en plus de ces deux formes classiques, et alors les a comme fait une espèce d'amalgame de tout cela pour qu'il y ait une église établie qui serait imposée à tout le pays et que tout le pays accepterait. Lorsque Henri VIII s'est séparé, a obligé l'épiscopat catholique, comme il était en Angleterre, de se séparer de Rome canoniquement d'abord, le pays est resté officiellement catholique, mais à ce moment-là, il y avait envahissement de l'Angleterre de toutes sortes de formes d'agitateurs protestants de tout poil, si vous voulez. Et lorsque Édouard VI est arrivé au trône en 1546, je pense que c'était, je ne suis pas absolument sûr sur les dates, dans les trois ou quatre années de son règne, parce qu'il était enfant, à ce moment-là, le protestantisme a pu pulluler dans le pays d'une manière totalement libre. Et lorsque Marie Tudor est arrivée au trône vers 1549, quelque chose comme ça, elle a essayé de ramener de force l'Église, l'Angleterre sous l'égide de Rome avec le cardinal Pole. cet effort n'a pas réussi, et Elisabeth, alors, pour ne pas continuer cette espèce de jeu de balancier entre catholicisme et protestantisme, a imposé une sorte de voie moyenne, soi-disant, à toute l'Angleterre, qui était l'établissement anglican. Mais cette voie moyenne était à base de doctrine protestante et gardait beaucoup de formes extérieures catholiques, même apparemment la succession apostolique des évêques, etc. Et c'est ça d'ailleurs qui a gardé Newman dans l'anglicanisme si longtemps, parce qu'il pensait vraiment qu'il y avait là une branche authentique de l'Église universelle qui avait la succession apostolique. En fait, doctrinalement et sacramentellement, c'est absolument impossible de le soutenir historiquement, et c'est ce que Léon XIII a fait avec cette déclaration que les ordres anglicans étaient nuls. Mais Newman n'a pas connu ça, parce que Newman est mort en 1790, alors que Léon XVI a publié, a promulgué cette note, si vous voulez, sur les ordres anglicans en 1896. Donc, voilà un petit peu comment moi je décris les choses. Alors, Newman ajoute ici aussi que de temps en temps, il y avait comme une sorte de relancée vers une catholicisation de l'anglicanisme, mais du dedans de l'anglicanisme et sans aucun rapport véritable avec l'Église catholique. Seule Marie Tudor a agi au nom de Rome, si vous voulez, alors que Charles Ier et d'autres qu'il mentionne là agissaient de la propre initiative pour essayer de catholiciser davantage l'Église anglicane. Et d'ailleurs, Charles Ier a payé ça de sa tête, comme nous le savons, en 1649, et il a été traité depuis par les anglicans comme une sorte de martyr. Voilà. Et alors, je n'entre pas, par conséquent, dans ce que Newman dit sur cette réalité complexe de l'histoire. Je le vous ai décrit un petit peu à ma façon, comment je vois les choses. Mais le deuxième point, là, il faut le suivre tel qu'il l'a fait, parce qu'il l'a fait d'une manière assez géniale. C'est-à-dire que Newman a une puissante pénétration quand même des réalités doctrinales et culturelles, disons les réalités religieuses et culturelles de mon pays, à cause de le niveau de son intelligence et de sa capacité de pénétrer les choses, si vous voulez. Alors, à ce cause de ça, nous allons lire quand même carrément les deux, la page et demie qui commence à 543, où c'est marqué premièrement. Donc les trois parties, maintenant nous sommes au deuxième point, les trois parties qui agissent à l'intérieur de l'anglicanisme, ou qui étaient présents dans l'anglicanisme à l'époque où il y a vécu. Est-ce qu'une âme charitable pourrait commencer là premièrement? Vous y êtes, oui? C'est peut-être un peu de... Allez-y, oui.
Il n'y a peut-être aucune institution...
Non. Premièrement, le parti apostolique.
Premièrement, le parti apostolique ou tractarien qui va maintenant dans la direction du catholicisme, plus loin dans aucun temps ou dans aucune manifestation précédente.
Grâce à Newman, d'ailleurs, oui.
À ce point qu'en l'étudiant dans ses adhérents les plus avancés, on peut dire qu'il ne diffère en rien du catholicisme, excepté dans la doctrine de la suprématie du pape.
Là, je dirais que Newman, il faut nuancer un petit peu ça, parce que Newman lui-même a vécu quelque chose qui est que vivent tous les convertis du protestantisme au catholicisme, y compris mon papa lorsqu'il s'est converti de l'anglicanisme. C'est-à-dire qu'on pense que toutes ces réalités sont là, qu'on croit à Marie, qu'on croit à la présence du Christ en Eucharistie, alors qu'en fait il n'y est pas, pour dire les choses comme elles sont. Et puis ainsi de suite. Mais dès qu'on devient catholique, la réalité même de la communion universelle donne à tout cela une note totalement nouvelle. D'ailleurs, c'est ce que Newman lui-même dit dans d'autres endroits. On continue.
Ce parti s'éleva au XVIIe siècle à la cour de Jacques Ier et de Charles Ier. Il fut presque éteint par les doctrines de Locke et par l'événement au trône de la maison de Hanovre. Mais ces principes furent enseignés et silencieusement transmis pendant le cours du XVIIIe siècle par les non-jureurs, secte d'hommes instruits et zélés qui, conservant la succession épiscopale, se détachèrent de l'Église d'Angleterre quand on les somma de prêter serment de fidélité à Guillaume III. De nos jours, on l'a vu revivre et former un petit nombreux et croissant dans l'Église d'Angleterre, au moyen du mouvement commencé par les écrits intitulés Tracts for the Times et de la nommée Tractaria, dont il est si souvent question dans ce livre. Ce mouvement, le parti évangélique qui fait vivre dans le monde entier toutes les sociétés bibliques et la plupart des associations pour les missions protestantes.
Ben, je commence en disant ceci, oui. C'est qu'en fait, si vous regardez comment dans la sphère qui était énorme quand même, qui était sous l'influence de l'Angleterre comme faisant partie de l'Empire britannique, vous verrez que c'est en fait majoritairement occupé par des formes de protestantisme qui ne sont pas anglicanes. Les États-Unis, c'est le cas le plus remplissant, même si les États-Unis ne sont pas maintenant une colonie anglaise, mais elles l'ont été. Bon, ils l'ont été. C'est parce que, justement, pendant longtemps, le lien entre l'épiscopat et la couronne que vivait l'anglicanisme empêchait finalement un mouvement missionnaire anglican de vraiment s'implanter dans les pays où l'Angleterre était maître, si vous voulez. Et ça, c'est parce que, justement, on voulait garder, finalement, les privilèges qu'avait le roi sur le pouvoir sur l'Église. Et ensuite, petit à petit, cela est devenu impossible. Et alors, à ce moment-là, vous avez dans ce qui s'appelle maintenant la communion anglicane, qui regroupe au moins 27 provinces dans les pays anglophones de l'Afrique, l'Australie, le Canada, etc., l'anglicanisme de ces pays-là, mais libérés, si vous voulez, de la tutelle de l'État. Mais il a fallu des luttes incroyables pour obtenir que les épiscopats anglicans puissent s'établir dans une indépendance de la couronne britannique, voyez. Donc ça a retardé, ça a ralenti la possibilité d'une mission, d'un dynamisme missionnaire anglican. Alors que, par exemple, le méthodisme est sémé dans le monde entier, et à partir de John Wesley en Angleterre, et maintenant est devenu une confession chrétienne avec 45 millions d'adeptes au moins. Et le presbytéro-calvinisme, le type presbytérienne, le type anglo-saxon, disons, du presbytérianisme, est très nombreux aussi, voyez. Donc, voilà, on continue.
On peut faire remonter l'origine de ce parti aux puritains qui commencèrent à se montrer dans les dernières années du règne de la reine Élisabeth. Il fut presque entièrement jeté hors de l'Église d'Angleterre lors de la restauration de Charles II en 1660. Il se réfugia parmi les dissidents de cette Église et il se mourait peu à peu lorsque ses doctrines furent ressuscitées avec une grande vigueur par les célèbres prédicateurs Whitefield et Wesley, pasteurs de l'Église anglicane l'un et l'autre. Et fondateur de la secte puissante des méthodistes.
Alors le mot secte, voyez maintenant, ne s'est pas permis. Lorsque j'étais dans la commission internationale en méthodiste catholique, les méthodistes m'ont parlé du fait que dans certains pays de l'Amérique latine, par une sorte de mépris de ce protestantisme foisonnant dans les pays catholiques de l'Amérique latine, et puis c'est l'Amérique latine, et c'est grave quand même, mais bon, on parlait du méthodisme comme d'une secte. Et alors, moi j'ai dit au Conseil pontifical pour l'unité, il faudrait quand même qu'on dise à ces évêques qu'on ne peut pas appeler une secte qui est une confession mondiale avec 45 ou 50 millions de membres fidèles et qui a un dynamisme missionnaire qui est admirable. On ne peut pas appeler ça une secte et qui est aussi dans une ouverture à un dialogue œcuménique avec le catholicisme. Donc les réalités ont changé depuis que Newman a vécu, qui font qu'on ne peut pas parler de ces choses comme des sectes. Je sais que votre République française parle comme ça, mais votre République française ne sait rien du tout sur le monde anglo-saxon.
Il fallait que je dise ça pour me décharger de ce que je pense de Sarkozy et compagnie. Bon, allez, on continue. Bon, allez, on continue, oui.
En même temps qu'elle créait une secte en dehors de l'Église établie, ces doctrines exerçaient une influence importante au sein de cette Église elle-même et s'y développèrent peu à peu jusqu'à former le Parti évangélique, qui est aujourd'hui de beaucoup la plus puissante des trois écoles que nous nous appliquons à faire connaître.
Et là aussi, on est traduit Newman Evangelical par le mot évangélique, où lui-même a permis sans doute que le mot évangélique passe, alors que moi je dirais pas évangélique, parce que, par exemple, les protestants allemands qui se disent évangéliques ne sont pas comme ces protestants anglo-saxons issus du puritanisme et aussi du méthodisme qui a finalement remis l'agapé charité au sein de l'expérience spirituelle protestante et par conséquent qui est beaucoup plus riche de sens que n'est un évangélisme à la luthérienne ou à la calviniste, si vous voulez. Et moi, j'emploie par conséquent ça. Le dictionnaire de spiritualité a accepté ça comme étant nécessaire. J'utilise toujours le terme évangélicalisme pour prendre le terme anglais evangelical et dire que c'est une spiritualité protestante, mais à nuance anglo-saxonne, avec des composantes qu'il n'y a pas dans le protestantisme évangélique de l'Allemagne. D'ailleurs, lorsque on voit la manière dont cette réalité-là, cette spiritualité protestante évangélicale est en train de requinquer le protestantisme français, on voit bien qu'il y a là quelque chose de différent. Alors, on continue.
Troisièmement, le parti libéral connu dans les siècles qui nous ont précédés sous le nom moins honorable de latitudinaire. Il se détacha du parti quasi-catholique ou parti de la cour sous le règne de Charles Ier et fut nourri et répandu par l'introduction en Angleterre des principes de Grotius et des Arminiens de Hollande.
C'était un libéralisme protestant, si vous voulez, qui a eu son point de départ dans les provinces, les 9 provinces du nord-est de l'Europe qui étaient à ce moment-là appelées simplement les Pays-Bas. Et alors c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Belgique et la Hollande sont séparées l'un de l'autre, c'est en partie à cause de questions religieuses, parce que ces 9 provinces des Pays-Bas du Nord étaient protestants et d'un protestantisme très dur. Mais la réaction contre ça, c'était une sorte de rébellion libérale, si vous voulez. Et vous voulez, je ne peux pas dire davantage là-dessus, mais voilà, c'est un peu ça, oui.
Nous avons déjà cité la philosophie de Locke comme ayant agi dans le même sens. Il prit le parti de la Révolution de 1688 et appuya les Whigs, Guillaume III et la maison de Hanovre. Le génie de ce principe est contraire. Le génie de ce principe est contraire à l'extension et au prosélytisme. Et quoi qu'il ait compté dans les rangs des écrivains remarquables parmi les théologiens anglicans, il n'avait eu que peu de spectateurs lorsqu'il y a 10 ans, irrité par le succès des tractariens, prenant avantage de la conversion à l'Église romaine de quelques-uns de leurs principaux chefs, et aidé par l'importation de la littérature allemande en Angleterre, ce parti s'est avancé tout à coup sur la scène publique et s'est propagé parmi les classes éclairées avec une rapidité si étonnante qu'on est presque autorisé à croire que dans la génération qui nous suivra, le monde religieux sera partagé entre les déistes et les catholiques. Les principes et les arguments des libéraux ne s'arrêtent même pas au déisme.
Vous voyez, Newman là est prophète de ce que serait la sécularisation de l'Europe dans le siècle après lui. Et c'est ça qui est arrivé. Mais ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'au fond, ce phénomène a existé de façon plus que larvée d'ailleurs au sein de l'Église catholique au tournant du siècle avec ce qu'on appelle le modernisme. Et c'est Pitis d'ailleurs qui a été souvent blâmé par les historiens pour une étroitesse, parce qu'il a condamné le modernisme d'une manière extrêmement dure. Et alors, ce qui avait provoqué, si vous voulez, pour une part, le succès du modernisme dans l'Église catholique, c'était le succès de l'exégèse allemande à l'intérieur de l'Église catholique. Et ce n'est que maintenant que des esprits de la trempe de Ratzinger, etc., rééquilibre l'exégèse biblique dans l'Église catholique. On faisait une exégèse historico-critique qui était absolument inassimilable par les professeurs qui faisaient la dogmatique ou de la morale ou d'autres disciplines pour l'exposition de la foi catholique. Une exégèse inassimilable parce que inféodée à des principes historico-critiques qui étaient en fait à base de philosophie allemande. Et ceci, vous voyez, jusqu'au Concile Vatican II, et même jusqu'après Vatican II, les libéraux exégètes dans l'Église catholique, utilisant la liberté donnée par Vatican II, apparemment dans le sens de laisser l'exégèse moderniste, disons, faire son chemin dans l'Église catholique sans être dérangé, si vous voulez. Ce n'est que maintenant que l'équilibre s'établit dans l'exégèse. Alors figurez-vous que si cela arrive dans l'Angleterre avec un ministère structurant épiscopal qui est complètement asservi à l'État, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le libéralisme complet et la liberté de l'intelligence par rapport à la foi. Vous voyez, c'est ça que Newman a vécu. Bon. Voilà pour le deuxième point que nous l'avons lu tout entier. Maintenant, le troisième point est celui-ci. La véritable source de l'anglicanisme n'est pas justement dans ces réalités-là. Ce sont des partis à l'intérieur de l'Église anglicane qui ont eu plus ou moins de succès. Et c'est d'ailleurs le fait que l'anglicanisme n'a pas à refuser finalement l'évolution globale vers un sens plus juste de la nature même de l'Église, etc., qui a fini par faire que Newman n'en pouvait plus et est parti et a vu que l'anglicanisme n'était pas une branche authentique de l'Église une, si vous voulez. Parce que jusqu'alors, il avait cette idée que, à ma foi, nous sommes la branche anglicane, il y a la branche orientale et la branche catholique romaine. C'est réconfortant pour quelqu'un qui veut rester anglican, mais lorsqu'il a découvert la véritable nature de l'anglicanisme comme un asservissement à l'État qui est complètement contraire à la nature de l'Église, à ce moment-là, il a été obligé de dire « Non, je ne peux plus continuer là-dedans ». Et par conséquent, il dit bien ici maintenant que ce qui fait au fond l'unité de la masse des anglicans, ce n'est pas tant d'être membre de l'un ou l'autre de ces partis, parce qu'à ce moment-là, l'anglicanisme aurait éclaté. C'est d'être le serviteur fidèle de l'État. C'est de voir accepter qu'il y ait asservissement du religieux à l'État. Et d'accepter que, par conséquent, il y a une sorte de foi biblique vague qui est disséminée à travers l'ensemble du pays, mais qui n'engage pas à grand chose. Peut-être qu'on pourrait lire l'une ou l'autre phrase, ou au moins le début, pour montrer ce que c'est exactement. Voyez. Oui, au moins le premier paragraphe. Ces membres ne sont ni. Le deuxième, 545, là, ce petit paragraphe-là. Ziet, ses membres ne sont ni tractariens. Quelqu'un pourrait-il?
Ses membres ne sont ni tractariens, ni évangéliques, ni libéraux. Ou s'ils le sont, c'est sous une forme très douce et très inoffensive.
Voyez.
Car aux yeux du monde, leur caractère principal est d'être les avocats de l'établissement et de l'établissement.
Oui, alors ce n'est pas une pétition inutile parce que d'un établissement et de l'établissement, c'est-à-dire le joyau du protestantisme anglais dans son ensemble, c'est cette église qui est asservie à la couronne britannique et qui a essaimé dans le monde entier. Voilà, c'est ça. Oui.
Et ils sont plus ardents pour la conservation d'une église nationale que soucieux des croyances que cette église nationale professe. Nous avons dit plus haut que le grand principe de l'église anglicane était sa confiance dans la protection du pouvoir civil et sa docilité à le servir, ce que ses ennemis appellent son erastianisme.
Le mot erastianisme vient du mot Erastus, qui était aussi un Hollandais qui a justement préconisé la conception d'une église qui soit la servante de l'État, la dimension religieuse de l'État. Voilà, on ne va pas lire tout ça après. C'est finalement, au fond, si vous voulez, c'est le gallicanisme, mais poussé beaucoup plus loin. Hein, c'est un peu ça. Hein. C'est le gallicanisme, mais poussé beaucoup plus loin. Parce que si vous demandez à un gallican qu'est-ce qu'il est, il ne peut se définir négativement. Il ne peut se définir que négativement, c'est-à-dire il n'accepte pas que Rome intervienne dans les affaires de l'Église de France. C'est ça, hein, gallican, c'est purement négatif. C'est une sorte de tentative d'établissement français de l'Église, sans justement être coupé de Rome. La Révolution a essayé d'aller jusque-là avec la Constitution civile du clergé, et grâce à l'Esprit Saint, à Jean-Marie Vianney et autre chose, enfin, c'est revenu, la pendule a été dans le sens de revenir au catholicisme, mais c'était tout juste, hein, Et moi, pour vous dire, hein, vous connaissez le père Manaranche, sans doute. Hein? Zostil. Oui, non. Oui.
Non.
Ben, en fait, c'est un jésuite qui enseignait pendant de longues années, qui avait un franc parler très clair. Et alors, moi, je lui ai dit, écoutez, père, j'ai l'impression que si les évêques de France n'étaient pas rattachés un à un, directement au successeur de Saint-Pierre, et ça de droit divin, alors que la conférence épiscopale n'est que de droit ecclésiastique, eh bien, le socio-culturel de la France, le socio-politique de la France, en voie de décomposition, comme le reste de l'Europe d'ailleurs, et comme mon pays aussi, hein, en voie de décomposition, boufferait la conférence épiscopale de France en 48 heures. Et il m'a dit, non, Père Francis, il dit pas 48, mais 24. Mais c'est ça. Et le gallicanisme, c'est ça. C'est cette tendance-là. Mais heureusement pour vous. Vous avez la chance, vous savez, même s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a au moins certaines choses qui vont. Et ça, ma foi, bon. Ensuite, alors. Et puis on peut caractériser aussi, pour ce qui est de cet erastianisme ou anglicanisme sociopolitique, une répugnance par rapport au pape de Rome, si vous voulez. Une répugnance par rapport au pape de Rome. Et c'est ça qui fait l'importance de la visite de Benoît XVI en Angleterre, parce qu'en fait, les relations se sont améliorées petit à petit, et on est passé d'un délégué apostolique en Angleterre à Nonce, on est passé à un ambassadeur qui a au même rang que les autres ambassadeurs de pays différents à Rome, et maintenant, on a eu pour la première fois dans l'histoire la visite d'un pape en Angleterre comme visite d'État, parce que la visite de Jean-Paul II était une visite pastorale. Il a été accueilli par la reine, etc., parce que la politesse politique exige, même Zapatero a fait un petit effort pour Benoît XVI en Espagne. Écoutez, bon, c'était pas très beau. Hein. Mais ici, c'est la reine d'Angleterre qui a invité Benoît XVI en Angleterre. Pas les catholiques, mais la reine d'Angleterre. Et d'ailleurs, il y a, dans l'Observatoire Romano, il y avait une photo de l'accueil du pape par la reine d'Angleterre. Et alors, on a un Benoît XVI qui est un petit peu pincé, comme si, pour la première fois, il rencontre une majesté royale comme ça. Et alors, un peu pincé, et on a une reine absolument rayonnante de joie qui regarde Benoît XVI comme si c'était un de ses enfants. Vous voyez, c'est un peu ça. Regardez la photo, ouais. Regardez la photo. C'est délicieux. tout en bas quand même, il y a quand même une manière de dire ce qu'est au fond doctrinalement cet anglicanisme de masse. Et c'est ça que je dis que, oui, le dialogue anglican du catholique, sans doute qu'il faut le poursuivre par charité écuménique, mais il ne tient pas compte de cette indifférence, ah non, on pourrait dire ça des catholiques de France malheureusement, mais de cette indifférence religieuse de l'ensemble, si vous voulez. Lisons à partir de plus bas là, 545, le bas. Il prêche, il résume un petit peu, ah quand même, il y a dessus là, la dernière phrase du paragraphe qui précède, le principal dogme. Vous y êtes là, excusez-moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lignes du bas de la page. Quelqu'un pourrait-il ?
Leur principal dogme théologique est que la Bible contient toutes les vérités nécessaires et que tout chrétien est individuellement capable de les y trouver pour son usage.
Voilà. Ça, c'est autre chose que de parler de l'anglo-catholicisme et des dogmes qui sont proches de ceux de Rome. Allez, on continue.
Ils prêchent le Christ comme l'unique médiateur, la rédemption par sa mort, le renouvellement par son esprit, la nécessité de bonnes œuvres. Ce grand assemblage d'hommes, véritable représentant de ce bon sens qui rend l'Angleterre si célèbre dans le bien comme dans le mal.
Ah, ça, j'aime bien ça. L'Angleterre du bon sens dans le bien, mais seulement aussi dans le mal. Bon, allez, on continue. Ça, c'est Newman, ça. Ah, ça, c'est Newman, il est inflexible. On continue.
Regarde pour la plupart avec défiance toute espèce de théologie, toute école théologique, et en particulier les trois écoles que nous avons cherché à faire connaître.
Pourquoi ? Parce que il prenait la religion trop au sérieux. Un bon anglais est un gentleman qui ne prend pas la religion au sérieux. Il en a l'apparence, il en a l'apanage. Il est peut-être organiste pour le curé local, pour lui faire plaisir. Mais qu'est-ce qu'il croit à l'intérêt de lui-même ? C'est comme une de ces porcelaines chinoises, vous savez, qui claque au moment où on... Bon. Excusez-moi, mais Newman pensait comme ça. Newman pensait comme ça. Il était intraitable pour le gentleman anglais. Intraitable. Bon. Quatrième point. Ou troisième point, non ?
Quatrième.
Oui. L'importance maintenant de bien comprendre ces distinctions que souvent on utilise aujourd'hui, surtout en France, d'une manière qui fait penser que ça, qui sont encore... qui dénote encore des réalités, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Alors lisons maintenant en haut du page 547 le nom de doctrine.
Le nom de doctrine de la Haute Église désigne donc l'enseignement qui s'applique à faire ressortir les prérogatives et l'autorité de l'Église, mais non pas tant ses pouvoirs invisibles que ses privilèges et ses dons comme corps visible.
Voilà, autrement dit, l'appareil de l'État. Et beaucoup de Français me disent, il y a la Haute Église, n'est-ce pas ? Et ils pensent à l'anglo-catholicisme, mais c'est l'anglo-catholicisme qui est peut-être fils ou fille, enfin, de cette Haute Église, n'est plus du tout la Haute Église. La Haute Église, au fond, est inapplicable, finalement, à la situation actuelle de l'anglicanisme. Oui, on continue.
Et comme dans la religion anglicane, ces privilèges temporels ont toujours dépendu du pouvoir civil, il arrive accidentellement qu'un partisan de la Haute Église est à peu près un érastien, c'est-à-dire un homme qui nie le pouvoir spirituel propre à l'Église et soutient que l'Église est une des branches du gouvernement civil. Ainsi, un calviniste peut être un partisan de la Haute Église, comme l'était archevêque de Canterbury sous le règne d'Élisabeth, et comme l'était, au moins dans sa jeunesse, Hooker, le maître du temple.
Voilà, il y a une autre explication, mais bon, j'ai dit ça. Alors, la basse
église. La basse église est, bien entendu, le contraire de la haute église. Si donc le parti de la haute église est le parti de ceux qui tiennent pour l'église et le roi, le parti de la basse église est celui qui anathématise cette doctrine érastienne et considère comme antichrétien de donner à l'État un pouvoir quelconque sur l'Église de Dieu. C'est ainsi que les puritains et les indépendants préférèrent jadis Cromwell au roi Charles.
Les indépendants étaient précisément les ancêtres de tout ce qui est de l'ordre d'une église qui se détermine par une communauté de foi de la base. Et c'est ça maintenant qui est à le vent en poupe dans le protestantisme avec cet évangélicalisme qui ouvre des temples protestants à Paris, à Thiel-Arrigo et des choses comme ça, parce que le désintérêt pour l'église officielle vient de ce qu'il y a eu de grands clivages dans les églises protestantes autour de l'homosexualité, de l'ordination des femmes et des choses comme ça, et que ceci a dégoûté ceux qui restaient de ferveur dans ces évangélicalistes qui étaient de basse église, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas pour l'épiscopat et le roi, et par conséquent maintenant créer des conventicules qui essaient de se dire simplement église communautaire, comme dans le Nouveau Testament, sans être impliqué dans aucune structure de gouvernement et de pouvoir. Et les congrégationalistes, c'est-à-dire les indépendants, c'est-à-dire ceux qui voulaient ne pas dépendre de l'État, mais créer la conventicule protestante comme ils le voulaient, eh bien, c'est à ça que Newman nous renvoie ici. Ceux qui ont fondé les États-Unis, c'était des indépendants, des protestants qui ne voulaient plus du roi et de l'épiscopat et qui voulaient fonder la communauté protestante libre, voyez. Bon, on continue.
Aujourd'hui, cependant, depuis que les puritains ont cessé d'exister en Angleterre, la dénomination de basse église a cessé de représenter une idée ecclésiastique et désigne un parti théologique devenant le synonyme de parti évangélique. En conséquence, un changement analogue a eu lieu dans le sens du nom de haute église. Au lieu de désigner uniquement les partisans de l'église et du roi, ou les érastiens, il arrive à prendre une signification théologique et à désigner le parti semi-catholique.
Voilà, Newman a constaté que c'est comme ça qu'on parlait de son mouvement dans le catholicisme, ou ici en France ou ailleurs, oui.
Ainsi, de nos jours, il arrive souvent qu'on donne aux tractariens eux-mêmes le nom de partisans de la haute église, quoiqu'ils aient commencé par dénoncer l'érastianisme, et qu'à leur origine, ils aient été combattus à Oxford avec fureur par le parti de la haute église ou de l'église établie.
Voilà, là c'est, ça relève justement l'ambiguïté dans laquelle il ne faut pas tomber, si vous voulez. Maintenant, il y a encore... c'est ça. Bon, ben ça c'est clair. Situation de l'anglican fervent. Il y avait quelque chose que je voulais donner avant ça. Ah oui. Cette religion édulcorée, si vous voulez. Et c'est ça qui a fait que Newman aussi a décidé de partir. Et ces analyses, disons, psychosociologiques ou phénoménologiques sont géniales. Parce qu'il type les choses de telle façon qu'on voit exactement pourquoi il est parti finalement. Je prends ici à la page 168 du Grammaire de l'Assentiment. Non, c'est l'apologie. Non, qu'est-ce que c'est alors? On va jusqu'à ça. 116. Voilà. Je vais vous lire quelque chose qui montre exactement comment la sécularisation procède. « mais ne sont selon là que des parties des dénominations, des parties des écoles, si on les compare à la religion nationale de l'Angleterre dans son ensemble. Donc je rejoins, si vous voulez, comment Newman va reprendre dans une étude de l'acte de foi les données avec lesquelles il a dû raisonner lorsqu'il parlait de cette psychologie de la foi. Et alors, donc, et voici donc, et alors il continue. Elle consiste, cette religion-là, non en rite ou credo, mais principalement dans la lecture de la Bible à l'Église, en famille et en particulier. Certes, je suis loin de sous-estimer cette simple connaissance de l'Écriture qui est ainsi impartie à la population au petit bonheur. Vous savez, mes grands-parents lisaient la Bible tous les jours, mais tous les jours, sans faillir. Au moins en Angleterre, elle a compensé jusqu'à un certain point les grandes et graves pertes de son christianisme. La répétition maintes et maintes fois au cours déterminé du service public des paroles des maîtres inspirés des Deux Testaments, et cela dans un anglais majestueux et grave, a été en fait pour notre peuple un immense bénéfice. Elle a accordé son esprit aux pensées religieuses. Elle lui a donné un niveau moral élevé. Elle a servi à associer la religion à des œuvres qui, même considérées humainement, sont parmi les plus sublimes et les plus belles qui aient jamais été écrites. Spécialement, elle a gravé en lui la série des providences divines en faveur de l'homme, de sa création jusqu'à sa fin, et par-dessus tout, les paroles, les actes, les souffrances sacrées de celui en qui se concentrent toutes les providences de Dieu. Jusqu'à ce point, la lecture sans discernement de l'Écriture a rendu service. Cependant, il faut beaucoup plus que les bienfaits que j'ai énumérés pour répondre à l'idée d'une religion. Alors que notre institution nationale professe n'être guère plus que cette lecture de la Bible et le fait de mener une vie correcte, alors ce n'est pas une religion de personnes et de choses, d'actes de foi et de dévotion directs, mais de spectacles sacrés et de pieux sentiments. Et elle s'est comparativement peu souciée de credo et de catéchisme, et en conséquence, elle n'a que peu manifesté le besoin de cohérence dans la matière de son enseignement. Ses doctrines sont moins des faits que des aspects stéréotypés de faits. Elle a peur, pour ainsi dire, de tourner autour d'eux. Cela amène ses disciples à se contenter de ce maigre aperçu de la vérité révélée. Ou plutôt, elle est soupçonneuse et proteste ou est effrayée, comme si elle voyait un personnage d'un tableau sorti d'un cadre, quand on parle de notre Seigneur, de la bienheureuse Vierge Marie ou des saints apôtres, comme d'êtres réels et réellement tels qu'ils sont, d'après les implications de l'Écriture, voyez. Et c'est là où il a découvert la différence entre le réalisme catholique en matière de foi et cette espèce de vague sentiment religieux qui n'est pas de la laïcité ou du laïcisme et qui a donné à l'Angleterre quand même sa grandeur sur un certain plan par rapport à ça en France. Mais de dire que cela est la même chose que de connaître la Vierge Marie personnellement, Jésus-Christ personnellement, les apôtres personnellement, alors ça c'est toute autre chose. Toute autre chose. Et Newman a découvert ça lorsqu'il est passé au catholicisme. Je continue. Je ne dis pas que le sentiment qu'elle inculque et qu'elle suscite soit authentique par rapport aux limites de sa doctrine, mais il est au mieux notionnel. C'est pour ça que Newman insiste tant sur la différence entre la connaissance notionnelle et la connaissance réelle. La connaissance réelle des réalités de la foi est celle d'un séminariste qui se lève tous les jours, qui fait son oraison devant le Saint-Sacrement. Là, il a une connaissance réelle de la foi. Ce que l'Écriture montre spécialement de sa première page à la dernière, c'est la providence de Dieu. Et c'est à peu près la seule doctrine tenue avec un assentiment réel par la masse des anglais religieux. C'est pourquoi la Bible est pour eux une si grande consolation et un refuge quand ils sont dans la peine. Je le répète, je ne parle pas d'école ou de parti particulier en Angleterre, que ce soit de la haute ou de la basse église, mais de la masse des gens de mentalité pieuse et vivant honnêtement dans tous les rangs de la communauté. Autrement dit, l'Angleterre de son époque n'était pas sécularisée. Et il y avait cette religion diffuse qui était tout autre chose qu'une laïcité combattante ici, vous voyez. Et c'est ça qui fait que lorsque Benoît XVI est allé en Angleterre, il a essayé de retrouver ces sources religieuses de l'âme anglaise, et il les a sorties, si vous voulez, de leur endormissement, et il a dit, ben voilà, la religion est à la base de la légitimité de la législation civile, ou alors la législation civile n'a pas de légitimité. Mais il n'aurait pas pu dire ça en France. Il s'est contenté de parler de l'héritage chrétien de l'Europe, Pierre Bernardin, mais en Angleterre, il s'adressait à toutes les instances, à des représentants de toutes les instances, civiles, politiques, etc., de l'Angleterre, parce qu'il savait qu'enfoui dans la conscience anglaise, il y a un sens religieux du fondement de l'État, si vous voulez. C'est ça. Mais c'est des différences de psychologie religieuse qui sont complètes. Il faut connaître ces différences pour comprendre pourquoi Newman a écrit ce qu'elle a écrit. Mais ce qu'il dit là sur la manière dont la lecture de la Bible laissée à elle seule édulcore le réalisme catholique, Congar dit quelque chose comme ça, malgré le fait qu'il est un concasseur de concepts et pas grand chose d'autre, mais je. Congar dit quand même qu'il y a ceci dans le catholicisme, c'est que vous ne vous arrêtez pas à la parole, mais vous allez à la réalité, et ça c'est Jésus-Christ. Et si la lecture de la parole, même en privé, n'est pas normée par l'écoute de la parole comme préparation à l'Eucharistie, eh bien tout cela s'effondre comme un château de cartes qui n'a pas de réalité. Ça, c'est la réalité du catholicisme, ça. Une fois, les universitaires de l'île 3, qui ne connaissaient rien, ils ne savaient rien, me demandaient de leur parler de l'écuménisme. Et alors, il me demandait de parler de catholicisme, de l'anglicanisme. Je suis arrivé chez eux et je trouvais devant des garçons, des filles qui étaient dans la faculté de lettres, qui ne connaissaient rien du catholicisme. Alors moi, j'ai dit, je vais vous parler du catholicisme maintenant, et pas de l'anglicanisme. Et alors j'ai dit, le trésor fondamental du catholicisme, le trésor au cœur, c'est Jésus vivant dans son Église, c'est Jésus dans l'Eucharistie. Et alors, il y a une fille qui était un petit peu contestatrice et qui est allée à la place et qui m'a dit, mais mon père, la lecture de la Bible et la parole, et tout ça, parce que c'était l'époque où on mettait l'Évangile à la place de l'Eucharistie dans les églises de l'île. Bon. Et alors, j'ai dit, mademoiselle, si un jour vous vous fiancez, eh bien, vous recevez des lettres de votre fiancé. Ça, c'est Jésus qui a permis que des auteurs écrivent de lui un portrait de son ministère, de ses parents, etc. Mais le jour de votre mariage, si vous restez chaste jusqu'au mariage, le jour de votre mariage, alors là, vous découvrez la réalité. Ça, c'est Jésus-Christ. Voilà. Parce que il y a de grands saints en France qui ont dit l'Eucharistie, c'est le mariage avec Jésus. Voilà. Alors, je lui ai parlé comme ça. Alors là, elle a compris. Là, elle a compris. Parce qu'on ne pouvait pas dire ça plus clairement. Mais c'est ça la différence, c'est ça l'essentielle différence entre le catholicisme et le protestantisme, c'est ça. Le réalisme de la foi. Je sais qu'il y a des protestants à qui Dieu donne de grandes grâces, et c'était le cas de Newman d'ailleurs, et Wesley en particulier, qui ne connaissait pas non plus une évolution vers le catholicisme. Mais il y a un jeu de grandes grâces par cette dévotion acharnée à la parole de Dieu. Mais ça l'a amené précisément à essayer de réinstaurer dans un anglicanisme de basse église, si vous voulez, ou d'évangélicalisme, de réinstaurer la pratique dominicale, de liturgie eucharistique, etc. Ça l'a poussé jusqu'à là, parce que le poids même de son désir de connaître Jésus réellement l'a poussé jusqu'à là. Vous voyez, c'est ça. Et alors, ici, cette espèce de religion qui est comme une espèce de charade, qui est une espèce de série de marionnettes qui jouent sur une scène, alors ça, il dit, ça c'est la religion du gentleman anglais qui ne va pas plus loin que le bout de son nez lorsqu'il s'agit de la foi. Vous voyez, c'est ça. Ah, mais vous voyez. Il n'y a pas de Thérèse de Lisieux dans l'anglicanisme, pourquoi pas? Il n'y a pas de... Il y a eu Saint Thomas More, puis il a payé de sa vie la fidélité à Rome. Et après ça, c'était rien. C'était rien. Jusqu'à Newman, qui a été béatifié. Bon, voilà. C'est comme ça. Vous avez Vianney, Soubirou, François de Sales et toute la compagnie, parce qu'il y avait le réalisme dans la foi, le réalisme, ça est donné à ça, et pas simplement en parler. Excusez-moi de vous parler comme ça. Maintenant, c'est la pause.